C'est une expression très française. Pour éviter les répétitions, on associe le génie d'une langue à un auteur emblématique. La langue de Shakespeare, la langue de Cervantes, la langue de Molière. En l'occurrence, pour cette dernière, on emploie l'expression depuis le XVIIIe siècle. Et Molière participe du prestige et du rayonnement de la langue française, au point d'en oublier de quoi sa langue est faite. Peut-être avez-vous remarqué, comme la romancière Natacha Appana, dans un article saisissant du journal La Croix, que l'expression « langue de Molière » est souvent employée pour désigner un français étonnamment correct. On ne dit pas de Patrick Modiano ou de Jean-Marie-Gustave Le Clézio qu'il manie à merveille la langue de Molière. On dit ça d'un auteur dont on se dit que c'est pas sa langue maternelle. Ou dit-elle de toute personne qui, a priori, pour des raisons sociales, ethniques, culturelles ou économiques, n'en aurait pas les codes. Autant dire que sur un malentendu qui frise le contresens, la langue de Molière, c'est celle des élites. Mais Molière, c'est pourtant celui qui donne à la prose ses lettres de noblesse, aux personnages moins distingués de la comédie populaire et surtout à toutes les classes, toutes les conditions. La langue de Molière, c'est le patois du paysan, c'est le jargon du médecin, c'est le verbe des avocats et le style des philosophes. C'est le parler faux des dévots et le lexique des petits marquis, toujours teinté de ridicule et de fantaisie. Ne dites pas la langue de Molière si c'est pour dire, comme de l'autre côté de la Manche, la langue de la reine. Dites tout simplement la langue française.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quand il parle de Molière, mon invité d'aujourd'hui n'a pas sa langue dans sa poche. Comédien, 463e sociétaire du français, metteur en scène et écrivain, figurez-vous qu'il milite pour l'entrée de Molière au Panthéon. Il vient de faire paraître deux livres sur l'auteur du Malade imaginaire, du Misanthrope ou de Don Juan, dont un dictionnaire amoureux. Bonjour Francis Huster.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être
Merci
avec nous
beaucoup.
Ce matin. Quelle langue parle Molière au juste ?
La langue de l'amour.
De l'amour ?
Oui. Je ne suis pas venu pour parler de Molière. Ce que je voudrais, c'est que Molière nous parle. Ça veut dire que il faut absolument différencier Jean-Baptiste Poquelin, qui est l'écrivain, et Molière, qui est le comédien. Il faut bien comprendre qu'un peintre, par exemple, a des couleurs. Les acteurs, eux, leurs couleurs, ce sont les mots, qui sont la pulsion de la pensée de l'auteur qui a écrit. Et autant un peintre est un créateur, on l'admet, autant on n'a pas encore compris que Molière, le comédien, crée à partir d'un texte où il y a des personnages à l'intérieur, que ce soit une pièce, que ce soit un roman, lui, il en fait un rôle. Et c'est le premier dans l'histoire du théâtre. Et c'est pour ça que, pour faire cette sculpture humaine qui est le rôle, avec ses sentiments, ses couleurs d'âme, je parle de Molière est un auteur d'amour parce qu'il met sur scène non pas les rois, les empereurs ou les grands avec cette langue noble. Au contraire, il met la langue du peuple. Et j'insiste sur le fait que la différence entre la langue du peuple et la langue de cette élite qui va même aller jusqu'à créer une orthographe scandaleuse, complètement contradictoire qu'est la langue française, cette langue du peuple, c'est celle du rire et des silences et des regards, et surtout du partage.
Mais aujourd'hui, en 2021, est-ce que c'est toujours une langue populaire, Francis Huster ?
C'est la seule langue qui peut sauver la France. C'est celle de l'insolence. C'est celle de nous aimer. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on assiste à une représentation de Molière, l'effet est tout à fait différent que quand on lit une pièce de Molière. Quand on lit une pièce de Molière, et l'école républicaine est totalement coupable de cette aversion, c'est-à-dire qu'on dégoûte vraiment les jeunes en leur faisant croire que ces personnages qui ne sont absolument pas ce que sont les rôles n'ont aucun état d'âme et surtout ne sont pas modernes.
J'aime ce que vous dites sur le naturel. Ça m'oblige à vous poser une question que je posais vendredi à un de vos confrères, Denis Podalydès. Le naturel chez un acteur, ça tient à quoi ?
Ça tient à être capable d'être une éponge. J'ai entendu l'émission avec Bruno.
Denis,
je trouve que c'est un acteur qui est comme une statue à la Comédie française. Il est magnifique, il est sur son socle d'âme. Et je veux lui dire qu'à l'inverse de ce qu'il déclarait, je ne pense pas justement que Molière soit quelqu'un du passé. Molière n'est pas classique. Molière doit appartenir à la jeunesse, il doit appartenir aux femmes. Molière est beaucoup plus extraordinairement ouvert aux femmes, contrairement à Marivaux qui vraiment les a caramélisées. Molière leur donne la parole. Et c'est là où je voudrais dire à la Comédie Française que d'un côté, à notre époque, il y avait l'Odéon, une autre troupe qui pouvait révolutionner la façon d'interpréter Molière, et le français qui était beaucoup plus classique. Il faut absolument qu'on retrouve cette dualité.
Alors comment fait-on pour l'atteindre, ce naturel, Francis Huster?
On l'atteint tout simplement par les clés de la porte de son âme, ce sont pas des mots. C'est-à-dire que...
C'est ce que vous disiez à vos étudiants quand vous enseignez?
Oui, j'essayais de leur faire comprendre que il n'y a pas un rôle de Molière, comme par exemple Philinte, prenons Philinte, l'exemple scandaleux de cette éducation nationale. On nous fait passer Philinte pour quelqu'un de formidable, alors c'est une ordure. C'est quelqu'un qui trahit Alceste, c'est quelqu'un qui est un faux cul, qui est un hypocrite. Et je tiens à dire que les jeunes doivent réinventer Molière en faisant de chaque rôle de Molière leur propre particularité. Eux-mêmes, qu'ils arrêtent de penser d'interpréter un personnage, il n'y en a pas. Ils doivent créer leur rôle, et c'est leur propre vie privée qui doit être sur scène. Leurs émotions, Rému, Gabin, n'ont jamais interprété de personnage. Ils ont ramené le rôle à eux-mêmes.
Diriez-vous que l'on est acteur?
On est NAIT,
ah oui.
Ou on est EST?
Oui. Maître.
Je crois que tout le monde est acteur dans sa propre vie. C'est ça qui est beau. Écoutez, on est entre tous les deux. Je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, mais si jamais il y en a plus que deux ou trois, qu'ils entendent bien ceci en français, dans cette langue française tellement admirable, parce que justement, elle a la souplesse de l'âme qui se contredit et qui est insolente. Dans cette langue française, il n'y a pas le verbe vérité. Ça veut dire que le verbe mentir, il n'y a aucun problème. Je mens, tu mens, il ment, nous mentons. Mais pourquoi il n'y a pas le verbe vérité? Vérité, parce que tout le monde dans la vie ment. Et c'est pour ça que la beauté du théâtre, la beauté de l'art de l'acteur, c'est de ne pas mentir.
Alors justement, sur ce sujet, j'aime beaucoup ce que vous dites dans votre livre Poquelin contre Molière, Francis Huster, dialogue imaginaire entre les deux faces du même homme, l'auteur et le comédien, où l'auteur justement dit au comédien, tu joues le rôle comme si tu ne voulais pas te salir. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que c'est justement dans la contradiction, dans nos peurs, dans nos détresses, dans notre côté sombre et ombré. L'âme a une ombre aussi, exactement comme le corps. Et la beauté, justement, c'est de sortir cette ombre d'âme.
Mais quand, pour la première fois, Francis Huster, avez-vous eu l'impression de vous salir?
Je crois pendant
de faire du sale, Francis.
Oui, justement. Quand je me suis dit à une répétition avec Jean-Louis Barrault, il est monté sur scène. Mais alors, et où est l'odeur? Où est l'odeur de ce que tu fais? Il y a pas d'odeur. Et j'ai compris qu'effectivement, l'auteur c'était l'odeur c'est le jugement sur soi-même.
Faut-il toujours aller jusqu'à salissure, jusqu'à souillure?
Mais bien sûr qu'il faut y aller. Parce que c'est en se jugeant soi-même qu'on peut progresser et qu'on peut comprendre ce que les autres pensent de vous. Le monde n'est pas un miroir. La beauté de l'art, que ce soit la sculpture, la peinture, le théâtre, la musique, c'est d'aller de l'autre côté, d'ouvrir la porte qu'on n'ose pas ouvrir parce qu'on s'en veut.
Alors c'est passionnant, parce qu'effectivement, dans cette idée même de se salir, il y a cette idée qu'au XVIIe siècle, hein, être comédien, c'était considéré comme une indignité, comme dirait l'autre. Vous le rappelez, à leur mort, les comédiens, à moins de renier leur profession, étaient jetés dans une fosse commune. Pour quelle raison, au fond, ce métier était-il si mal vu?
Parce que c'était le métier de la vérité.
Ouais.
C'est-à-dire que tous les autres étaient soumis. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. On imagine aujourd'hui Molière écrivant une pièce sur les féminicides, sur les femmes qui ne veulent pas être soumises. On imagine dans certains pays ce qui se serait passé, ce qui se passerait aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé au XVIIe.
Oui, c'est ça, son corps.
On l'a jeté à la fosse commune. Le curé le chat, le curé l'enfant, au lieu de mettre le cercueil à 6 pieds sous terre, en plus, donc, ça n'est terre sainte que sur 5. Et on a les documents absolus disant qu'on l'a jeté à la fosse commune.
Qu'est-ce qui reste de son corps?
Le plus beau, son âme et son œuvre. C'est ça qui est magnifique. Et cette œuvre, elle est réinventée tout le temps parce qu'elle est justement dans notre âme à nous. Tout le monde a son Molière. On dit qu'on va voir du Racine, du Corneille, qu'on va voir, etc. Mais on va voir Molière. Tous les spectateurs sont sur scène.
J'aime votre enthousiasme. En janvier, on fêtera les 400 ans de la naissance de Molière, Francis Huster. Et ça fait un moment que vous militez pour son entrée au Panthéon. C'est un combat pour vous.
Oui, c'est le combat d'une vie. Mais je suis pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a toutes les ombres de tous ceux que j'ai eu l'honneur d'accompagner dans ma vie, les Villars, les Barres, Poirot, les Géraud, les Vitesse, les Roussillons, les Dux, les Pia, les Hirsch, tout le monde. Et cette entrée, cette ouverture des portes de la gloire, j'y crois.
Et le fantôme de tous les comédiens qui travaillent.
Tous les comédiens qui travaillent et qui veulent justement continuer cette route qui est une route, c'est la route de la vérité.
Dans quelle mesure incarner un personnage, être sur scène, c'est peut-être ça justement. C'est peut-être se laisser habiter par des fantômes, par ses propres fantômes.
Oui, et surtout par son courage d'oser soi-même dans une impudeur totale, comme on se dénude pour le corps, se dénuder l'âme. Ça veut dire accepter les deux côtés de l'échiquier qu'on est soi-même, c'est-à-dire le côté blanc, oui, le côté noir.
Mais les fantômes, par quel fantôme êtes-vous hanté, vous ?
Moi ? Je peux le dire ?
Et bien sûr.
Je suis hanté par le fantôme de Jean Vilar, de Louis Jouvet, parce que je pense que ces deux hommes ont révolutionné à la fois du côté de la scène Jouvet, l'œuvre de Molière, et du côté de Vilar, le public. Et je suis scandalisé que la place du Palais des Papes en Avignon ne s'appelle pas place Jean Vilar. C'est absolument une honte.
Il y a beaucoup de honte et de scandale.
Non, mais de honte et de scandale. Oui, parce que, je veux dire, ce qui compte, c'est de graver pour l'éternité tout ce qu'on peut avoir apporté au peuple.
On va y revenir, Francis Huster, mais d'abord celle qui croit aux fantômes dans cette émission, vous la connaissez évidemment, c'est la culture et son actualité spectrale. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 8 novembre ?
Mais tous les jours ou presque, on a l'impression qu'il y a un prix qui est décerné.
Vepleur et la manière exclut Boomerang ce matin. Le prix Vepleur, soutenu par la Fondation La Poste, vient de choisir ses lauréats de l'année. Le jury tournant, emmené par l'ami libraire Marie-Rose Garnieri, donne son prix 2021 à l'écrivain belge Antoine Wauters pour son très beau roman En vers libre, Marmoud ou La montée des eaux, publié aux éditions Verdi. Un texte déjà récompensé du prix Marguerite Duras en octobre. Dans le même temps, une mention spéciale a été attribuée à la poétesse Laura Vasquez pour La semaine perpétuelle, parue aux éditions du Sous-sol. Gogo, la techno Francis, l'ONG Rave the Planet, qui organise notamment la Love Parade de Berlin, lance une campagne pour faire inscrire la techno berlinoise au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. On lève les bras bien haut, une reconnaissance qui permettrait notamment de protéger et entretenir les lieux du spectacle, de favoriser l'ouverture de nouveaux clubs et de leur ouvrir la voie à des subventions publiques. On boit de l'eau, un documentaire pour défendre le projet réunissant de nombreux artistes et DJ va être révélé ce mois-ci. En attendant, l'association a ouvert une page de soutien et d'appel aux dons sur ravetheplanet.com. Que de la bonne.
Everybody be cool, this is a robbery.
Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you.
Pulp Fiction et gros jeton, 25 ans après la sortie de son film culte Palme d'Or à Cannes en 1994, Quentin Tarantino vient de révéler qu'il allait mettre en vente certaines scènes inédites du long métrage sous forme de NFT, ces jetons non fongibles qui révolutionnent le marché de l'art et des enchères et qui permettent aux particuliers d'acquérir des œuvres originales sous forme numérique. Parmi les lots, en plus de 7 scènes coupées au montage final, il y aura aussi des versions manuscrites du scénario et un commentaire audio exclusif de Tarantino qui dit mieux.
J'applique mes dons d'expression, mes dons d'écrivain, disons, même servilement, humblement, à exprimer une réalité donnée. J'ai voulu déformer le moins possible.
Et enfin, la BNF compte sur vous afin d'acquérir des archives de Maurice Genevoix, l'homme de lettres et poète, entré au Panthéon en novembre dernier. La Bibliothèque nationale de France vient de lancer un grand appel aux dons. L'institution a besoin de 400 000 euros afin d'acquérir l'ensemble des manuscrits, carnets, brouillons et dessins de cet écrivain majeur du XXe siècle, à l'œuvre humaniste marquée par les stigmates de la Première Guerre mondiale. Fin de la cagnotte le 31 décembre prochain, à votre bon cœur. Francis Huster, invité de Boomerang ce matin pour parler de Molière notamment, dont vous dites qu'il a longtemps été mal considéré par les institutions. Pour quelle raison, tiens ?
Tout simplement parce que c'est un comédien qui écrit. C'est-à-dire que c'est exactement comme aux États-Unis, Chaplin, qui écrit ses scénarios, qui tourne et qui n'obtient jamais d'Oscar jusqu'à la fin de sa vie, où tout d'un coup on lui en remet un Oscar d'honneur. On ne tolère pas en France que le comédien, dont évidemment jusqu'à la Révolution, comme vous le disiez tout à l'heure, on jette son corps à la fosse commune, sauf s'il renie son métier de comédien. On ne tolère pas de célébrer ce métier. On a l'impression que c'est un métier ou le quand on va dans les loges des comédiens, on dit oh quelle mémoire. Mais ça n'a rien à voir avec la mémoire. Le pianiste aussi il a la mémoire de ses notes. C'est un métier au contraire qui ne repose pas sur la mémoire. Il repose sur cette ouverture d'âme et de projeter les couleurs de son âme, comme je disais tout à l'heure, le peintre, au public qui les reçoit.
Alors c'est intéressant, ça vaut aussi pour la Comédie Française. Hein. Et puis vous le dites, Louis Jouvet est arrivé. Qu'est-ce que Molière lui doit? En quoi a-t-il permis de montrer autre chose que ce qui était habituellement montré du théâtre de Molière?
Deux choses. La première, tous les héros de Molière sont des losers. Ils perdent tout. Sarpagon lui vole sa cassette. Tartuffe, on l'arrête. Argan, sa femme se fout de lui. Arnolf, il perd Agnès. Georges Dandin va suicider. Il a eu l'idée de faire de losers ses héros pour que ceux qui sont à côté réagissent. Et Jouvet a incarné Molière avec une séduction en rétablissant la vérité sur ses losers. Et deuxièmement, ce qui est extraordinaire aussi, ce qu'on lui doit, c'est par rapport aux femmes. C'est-à-dire que malheureusement, tous les metteurs en scène de Molière ont été à 99% des hommes. Et ils ont cru, ces imbéciles, que les héros étaient masculins dans les pièces, alors qu'en fait, ce sont les femmes qui sont les véritables héroïnes des pièces de Molière.
Jouvet, qui est un modèle de liberté pour vous, qui est un modèle tout court, qui a joué à la Comédie Française et qui a plusieurs fois refusé d'en devenir l'administrateur. La Comédie Française dont vous avez été, vous êtes, hein, le 463e sociétaire. Pourquoi est-ce que vous en êtes parti, Francis Huster?
Je suis parti comme Pierre Fernet au bout de 10 ans. Jouvet n'a pas joué aux Français, il a mis en scène aux Français.
Pardon.
Il a refusé d'y rentrer parce qu'en fait, il voulait incarner exactement comme Molière un patron de troupe, la sienne, au théâtre de l'Athénée.
Mais partir...
Et moi, j'en suis parti tout simplement pour, après 10 ans de Français où j'ai eu toutes les chances d'interpréter tous les plus beaux rôles, les tragiques et comiques, Racine, Corneille, Molière, Musset, tous les autres, pour rejoindre Jean-Louis Barrault et vivre justement cette aventure d'une des plus grandes troupes historiques de théâtre.
Vous n'avez jamais regretté ?
Ah non, jamais regretté. Non, non. J'ai regretté qu'une seule chose de la Comédie Française, c'est mon histoire d'amour avec Isabelle Adjani qui s'est terminée alors qu'elle aurait dû continuer sur scène et qu'on aurait pu faire une dizaine de duos d'amour sur scène exceptionnels. C'était un sacrifice de jeunesse stupide d'abandonner la Comédie Française pour ne faire que du cinéma et de s'embarquer dans une carrière un peu d'ailleurs comme d'autres acteurs aussi du français qui sont partis pour faire ce qu'on appelle une carrière au cinéma. Au théâtre, ce n'est pas une carrière. Au théâtre, c'est une mission.
C'est à la Comédie Française que vous avez joué Alceste pour la première fois?
Non. Non, j'ai joué Alceste pour la première fois en dehors de la Comédie Française quand je l'ai mis en scène. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir comme partenaire Daniel Lebrun, Robert Hirsch, qui ont tous les deux été récompensés de Molière, et surtout de sentir avec Jacques Piesser, Christian Reali, François Berland, toute la troupe, que Molière était là.
Oui, mais je vous pose la question, parce que vous dites volontiers que ce rôle d'Alceste dans Le Misanthrope, c'est le rôle de votre vie.
C'est le rôle de ma vie, parce que c'est celui qui, non pas fuit Célimène, parce que tout d'un coup il ne peut plus supporter qu'elle est et qu'elle veut vivre. Non, il se fuit lui-même. Et j'ai l'impression que toute ma vie, je n'ai cessé de me fuir. Je pense qu'un acteur, c'est quelqu'un qui fuit ce qu'il est vraiment.
Alors, quels mots, quelles répliques vous viennent immédiatement à l'esprit, Francis Huster? Mots d'Alceste qui parlent de vous?
Je hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, les autres pour être méchants, complaisants et n'avoir point pour eux. Ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses de cette complaisance. On voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici.
Cette pièce, Le Misanthrope, dans quelle mesure avez-vous le sentiment qu'elle se conjugue plus que jamais au présent?
Au présent, parce que je crois que et la campagne présidentielle et tous les mois que nous allons vivre avec les moments privilégiés justement en République française où le peuple peut se faire entendre et va décider, c'est justement le moment où en chacun Alceste doit ressortir de nous-mêmes. C'est-à-dire vraiment qu'on réfléchisse bien sur les valeurs qu'on veut donner non seulement à sa propre vie, mais aussi à ce pays. Ce sont des valeurs d'humanité, ce sont des valeurs de partage, ce sont des valeurs de courage, de foi, surtout pour bâtir pour l'avenir une jeunesse. Et c'est là où je trouve que l'œuvre de Molière va être vraiment très importante, parce que pour cette année Molière, la 400e depuis sa naissance, tout le monde va le célébrer, mais il faut célébrer en soi-même, c'est-à-dire il faut avoir le courage comme lui, d'oser dire ce qu'on pense tout bas.
Mais alors il n'y a rien de misanthrope en vous, Francis Huster?
Si, par rapport à moi-même, oui, je me fais beaucoup de reproches.
On va reparler, évidemment, non pas de misanthropie, mais de mémoire et de multiplicité, juste après l'une de vos chansons préférées, Frank Sinatra, My Way.
Ah, oui.
En 1969, vous êtes sur France Inter avec Francis Huster. Vous écoutez Boomerang, on est lundi.
And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way.
France Inter, Boomerang.
C'est-à-dire qu'on a l'impression de le connaître depuis toujours, vous savez, avec son menton flingueur, son sourire charmeur, son regard de lover, quelque part entre Don Juan, petit Papa Noël et une souris, tout en costume trois pièces, ce matin, Francis Huster, invité de Boomerang pour parler de Poquelin contre Molière, notamment ce livre dans lequel vous imaginez un dialogue qui vire parfois à la joute verbale, je le disais, entre Jean-Baptiste Poquelin, l'auteur, et Molière, l'acteur. En quoi êtes-vous double, tiens, vous ?
Tout simplement parce que sur scène, contrairement à ce qu'on pense, le comédien ne s'écoute pas jouer, il écoute le public.
Ça veut dire que c'est toujours l'expérience d'un dédoublement.
Toujours l'expérience d'un dédoublement, c'est-à-dire c'est un jeu d'échecs d'être un acteur. Tu dois penser au coup que toi tu vas préparer, tu poses ton cavalier là, ou la tour, ou le roi, ou la reine, mais tu dois aussi penser à ce que l'adversaire va faire.
Adversaire ?
Oui, l'adversaire, c'est-à-dire le public, parce que tu dois le séduire, tu dois le convaincre, tu dois l'amener lui-même à prendre ta place, à deviner ce que tu vas faire sur scène. C'est ça une grande représentation théâtrale. Le public, c'est déjà... ce qui va sortir de toi. Il le pressent.
Au point, parfois, Francis Huster, de plus savoir qui on est vraiment, de perdre pied, de se brûler l'âme, pour reprendre une expression que vous employez.
Oui, et ce qui est beau, c'est de s'incendier avec juste une petite étincelle totalement inattendue. Tout d'un coup, un acteur interprète un rôle, et c'est peut-être un simple regard de son partenaire qui c'est la petite étincelle qui fait tout jaillir. Tu peux pas me regarder comme ça. Non, je ne l'accepte pas. Je vais te dire ce que je pense. Voilà la beauté de ce métier. C'est pour ça d'ailleurs que tous les acteurs peuvent, comme les footballeurs, à chaque fois recommencer le match.
Alors dans quel état vous êtes quand vous vous apprêtez à entrer sur scène ?
Je parle aux fantômes. Je suis complètement cinglé. Pour me concentrer, ah ouais, c'est comme ça. Pour me concentrer, j'imagine que je vais Villard Barrault, que même tous mes anciens
mais vous
élèves
leur
sont
quoi
là. Non, je la ferme. Oh là là, moi je dis rien.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent?
Ils me disent ça va. Ça, bah, Barrault, il y avait cette phrase sublime qui me revient tout le temps. Joue sur ton clavier, diable. Il est plus important que tu ne penses. Il me reprochait toujours de jouer sur une seule note. Alors bon, voilà, j'essaye d'étendre un petit peu les sentiments parce que déchirure. C'est pas pareil que la tendresse, c'est pas pareil que la mélancolie, la rage, c'est pas pareil que la colère.
Et quand vous quittez la scène, Francis Huster, quand le rideau tombe?
Non, je la quitte jamais.
Comment ça?
Non, c'est-à-dire que même la nuit, sans m'en rendre compte, ce sont les femmes qui ont partagé ces moments de nuit avec moi. Je donne des coups, des fois je parle.
C'est pour nous faire des confessions bizarres, c'est pas nécessaire, Francis. Quoi. Je donne des coups, merci.
Non, mais oui,
merci.
Je parle, je sais pas, peut-être que je revis ce que j'ai vécu.
Alors, ce qui est intéressant chez Molière, c'est aussi qu'il écrit des personnages qui jouent aux acteurs, des personnages qui sont doubles ou qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, je pense évidemment à Tartuffe, et dans une certaine mesure à Don Juan, qui sont deux figures de l'hypocrisie. Comment vous l'expliquez-vous, cette fascination de Molière pour l'hypocrisie, justement?
Voilà, c'est tout le sens, c'est comme un navire, c'est la quille de sa vie. Ce que détestait probablement Molière, et c'est pour ça qu'il en voulait à Poquelin, l'auteur, comme Charlot en voulait certainement à Chaplin, l'auteur, c'est son hypocrisie de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il écrit. Et lui, il le faisait en tant que comédien. Je peux vous en donner un exemple, oui, avec le texte sublime de Don Juan sur l'hypocrisie. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Si tu prends le temps après hypocrisie, tout le monde partage ton avis. Alors que si tu fais comme certains acteurs stupides et somnambules, il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. La profession d'hypocrite a de merveilleux avantages, sont des imbéciles. Don Juan doit s'interpréter comme quelqu'un qui découvre en lui, au lieu de donner des leçons de morale, il découvre sans cesse en lui la vérité. Et on doit l'interpréter avec un naturel confondant du style. L'hypocrisie, c'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure. Et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et joue en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti qui, en choc un, se les jette tous sur les bras. Et ce que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leur action. Crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse? Qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion. Et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, de roulements durs injustes dans le monde, tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale. Et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui. Jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais. et garderait tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété et serai déchaîné contre eux. Des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle.
Génial, Francis Huster, Don Juan de Molière. Quel est-il le vice de notre siècle, Francis ?
De ne pas avoir confiance en soi. C'est incroyable comme on a finalement éduqué les gens pour qu'ils doutent d'eux-mêmes, pour qu'ils pensent que une morale, une force supérieure devait être leur conduite de vie. Non, ta vie, c'est toi qui la conduis. Et tu la conduis justement, non pas en suivant ton destin, mais en acceptant les coups de théâtre, comme on peut dire, du hasard. Tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un et tu te dis, ma vie va changer.
Alors, pour répondre à ce texte, et ce sera ma dernière question, Francis Huster, de quoi est-ce que vous ne vous accommodez pas, somme toute ?
Que Molière ne soit pas encore au Panthéon, mais j'ai vraiment bel espoir qu'il y soit.
Après ce matin, il le sera sans doute, parce que là, tout le monde a envie.
J'espère. C'est au président de la République à prendre cette décision qui glorifierait non seulement Molière, mais bien sûr tous les comédiens.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre Poquelin contre Molière est publié aux éditions Armand Collin et que votre dictionnaire amoureux de Molière vient de paraître chez Plomb. Les 400 ans de Molière, c'est en janvier, mais on l'a compris, les festivités ont déjà commencé. Et je n'oublie pas Francis Huster. Meurtre sur les îles du Frioul sur France 3 un samedi soir prochain, j'y serai. Tout de suite les médias, le retour en fanfare de Sonia De Villers et de son Instant M, c'est juste après ça.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner. Enchaîné, enchaîné.
Bernard Lavillier, le cœur du monde, 9h40 sur France Inter. Et tout de suite, Sonia De Villers et son grand retour. Ça va, Sonia?
Très bien, Augustin.
L'Instant M, on écoute.
Eh ben, salut, à demain.